Allô Valérie, comment
allô,
tu vas?
Ça va super bien toi?
Ça va super bien. Ils ont prévu de la pluie, puis nous autres, on est en dedans, ça va bien, là?
Ben oui, on n'a même pas de fenêtre en plus, fait qu'on ne saura même pas s'il pleut.
Alors, on fait retour sur l'exposition de dessin de Jim Carrey qui est présentée au Centre Phi. Deux questions.
Oui.
Y es-tu bon? Y as-tu du talent? Deuxième question, qu'est-ce que le maudit Centre Phi?
OK, je vais commencer par le Centre Phi. Le Centre Phi, c'est un centre d'art social. On y présente des expositions. On veut du moins que ce soit un peu à portée sociale, que ce soit engagé. Et c'est aussi basé sur la technologie. Et c'est pourquoi ils ont décidé de présenter l'exposition des dessins de Jim Carrey.
C'est
parce
où?
Que de c'est l'exposition...
Le Centre Phi, c'est où?
Le Centre Phi, c'est en plein milieu du vieux port de Montréal,
okay,
sur la rue Saint-Pierre.
Okay.
Ouais.
Fait
qu'il y a pas de stationnement, mais on y va en métro et on va y arriver.
On contourne la pyramide.
La pyramide, ça va bien aller.
Okay.
Fait que Jim Carrey, lui, dans le fond, ce qu'il fait depuis les dernières années, les trois dernières années, c'est qu'il publie sur Twitter des dessins qu'il fait. Et c'est pour ça donc que c'est parfait pour le Centre Phi parce que ses dessins sont engagés et il publie ça sur Twitter, donc les réseaux sociaux. Et ce qu'il présente, donc l'exposition, ça s'appelle This Light Never Goes Out, les dessins engagés de Jim Carrey. Un gars qu'on connaît évidemment par son humour gestuel, on le connaît par ses films, par Ace Ventura. Mais depuis les dernières années, il fait beaucoup moins de films et beaucoup plus de productions en art. Donc, il a fait beaucoup de toiles, mais les dessins, il les partage quotidiennement. Et donc, hier, j'avais le goût d'aller voir l'exposition au Centre Phi. Ça a ouvert ses portes jeudi dernier pour découvrir comment est-ce qu'il pouvait être engagé, Jim Carrey. Puis surtout, comme la deuxième question que tu m'as posée, ou la première, est-ce que artistiquement, c'est intéressant? Fait qu'à la base, je peux te dire que Jim Carrey, s'il t'a fait rire toute ta vie, Dan, il va pas te faire rire dans cette exposition-là.
Il n'y a pas besoin, il fait d'autres choses.
Ben, il est rendu ailleurs. Exactement. Okay. La constante de ses œuvres, de ce qu'on voit quand on entre dans la pièce, c'est un regard qui est empreint d'inquiétude sur l'actualité. Par exemple, lui, il va se positionner sur plein de sujets, une multitude de sujets. Il va avoir, entre autres, une critique de la situation sur l'avortement en Alabama. Et qu'est-ce qu'il a représenté pour pouvoir illustrer ça? Eh bien, il a fait la gouverneure de l'Alabama. On y voit sa tête qui surmonte un corps de bébé et en dessous, la légende, parce que chaque image est accompagnée d'une légende. Mmh. Donc, ce qu'il a écrit sur Twitter à ce moment-là, c'est écrit « Si vous avez à avorter, mieux vaut le faire avant que le fœtus devienne gouverneur de l'Alabama. »
Oh.
Et voilà.
Oh oui, c'est fort. Okay,
ah,
ça
c'est
frappe.
Fort. Oh oui, tu vas voir, puis plus tu
mais
te promènes,
bon.
Plus
je m'excuse,
c'est fort.
Ça frappe fort, mais c'est bon, ça.
Mais tu vois, c'est un peu ça qu'on réalise à travers l'exposition. C'est que lui se positionne par rapport aux tueries d'enfants dans les écoles, les agressions sexuelles, les armes qui circulent librement aux États-Unis, tout ce qui se passe évidemment avec l'administration Trump.
Est-ce qu'il a encore fait une crise, ces vaccins, là?
Ben il y a pas, y a rien sur les vaccins.
Ok.
En tout cas,
que, quand c'est arrivé, moi, je me suis dit mon Dieu, il était tellement hystérique, c'était pas contrôlé. Je me suis dit, bon, ben ça y est, le film La cloche et l'idiot, c'est un documentaire.
Mais c'est vrai qu'il s'emporte beaucoup, puis tu le vois même à travers les œuvres qu'il présente. Mais ce qui est intéressant, quand tu fais le tour de l'exposition, c'est que tu te rappelles tous les grands moments de l'actualité des trois dernières années. Fait que ça vous tente d'aller visiter ça. Pensez pas que c'est une visite au Musée des Beaux-Arts. Il y a pas de pièce d'un grand peintre. Cela dit, c'est super intéressant.
Ça parle fort.
Ça parle très, très fort. Ça s'appelle « This Light Never Goes Out ». C'est présenté jusqu'au 1er septembre. Il y a une cinquantaine de dessins qui sont présentés. Mettons, prévoyez-le entre 30 minutes, une heure pour bien saisir toutes les nuances des œuvres. Et Jim Carrey devrait passer cet été à Montréal pour voir l'exposition, qui, je le rappelle, est en première mondiale. Donc, peut-être qu'on pourra en reparler à ce moment-là. On va voir.
Okay.
Ce matin, sinon, je me suis entretenue avec Alexandra Strelitzky, qui est une de mes artistes favorites au Québec actuellement.
Oh, moi aussi.
Ouais, ben je te propose qu'on se gâte, on va écouter un extrait. Cette fille me fascine.
J'ai travaillé 20 ans dans les bars avant de sortir Tu Moi puis de faire des disques. Et là, quand je fais des shows, ben j'ai un préjugé favorable. Les gens sont venus me voir, tu sais. Mais dans ce temps-là, dans les bars, c'était pas ça. Fait que je faisais souvent demander la demande spéciale, baisse le son. C'était tout de là, là. Oui, c'est ça, je le connais par cœur.
C'était ton classique.
Oui, c'est mon grand classique. Et je m'en suis sorti dans les bars pour attirer l'attention en faisant des gros solos, en jouant beaucoup de notes. Elle joue très, très, très peu, puis elle atteint 10 fois les intentions que je veux atteindre en jouant le centième de ce que je jouais. Elle est bouleversante. Moi, j'entends 3 notes. D'abord, j'ai un frisson, puis ensuite, je viens mélancolique. Mais une belle mélancolie, c'est beau des fois.
C'est juste beau. Son disque Inscape, c'est un disque qu'elle a lancé il n'y a pas très, très longtemps. La pièce qu'on a entendue s'appelle Burnout Fatigue. Je lui ai parlé ce matin parce que, avec Louis Lemieux, donc je lui ai parlé. Je lui ai parlé parce que c'est une des rares femmes qui évolue dans le milieu de la musique néoclassique. Mm-hmm. Et en plus de ça, j'en reviens pas parce qu'actuellement, elle vit sur une espèce de vague de popularité qui fait en sorte qu'elle va présenter un spectacle, oui, au Festival de Jazz de Montréal le 4 juillet. Ça, on s'y attend. On dirait que ça convient à son œuvre. Mais elle va être au Festivois de Trois-Rivières en fin de semaine, le 29 juin, parmi une programmation où on compte The Offspring, Loud et Deux Frères.
Et moi.
Et toi, effectivement, t'as entièrement raison.
J'espère que je serai pas en même temps, je vais aller la voir.
Ben oui, je te le souhaite. Mais je vais parler ce matin parce que je voulais savoir qu'est-ce que ça fait tout à coup d'être projeté avec une certaine popularité et dans des festivals où t'entends du pop puis du rock. On écoute donc Alexandra Strelitzky.
Oui, ben je partage pas la scène avec eux directement, fait que c'est un peu moins bizarre comme ça, mais je pense qu'on le voit de plus en plus des espèces de croisements entre les styles puis les festivals. Puis c'est quelque chose que je trouve particulièrement le fun d'intégrer de la musique, on va dire classique, à des festivals plus rock ou pop. Ouais. Des fois, je trouve ça un peu bizarre de me faire reconnaître dans la rue. Ça, je m'habitue tranquillement à ça. Mais c'est sûr que ça a un peu dépassé les frontières du néoclassique, là.
Je trouve ça beau parce que je trouve qu'elle démystifie l'univers de la musique classique. Parfois, on a l'impression que c'est pas pour nous, que c'est trop loin de notre réalité. Puis finalement, quand tu jases avec une fille comme ça, puis quand tu écoutes son disque...
Elle a fait plein de tournées en première partie de Cœur de pirate.
Exactement.
Puis je m'excuse, quand tu veux, viens voir Cœur de pirate, tu veux que ça brasse un peu, puis tout ça, c'est tout un orchestre, puis... Elle garde les gens captifs complètement pendant la première partie. Elle est seule au piano, il n'y a rien d'autre.
Oui, elle a travaillé beaucoup avec Jean-Marc Vallée aussi. Hein. C'est elle qui a fait la musique de ses films Dallas Buyers Club, The Demolition. Et elle a fait aussi la musique de la bande originale de la série Big Little Lies. Donc, si ça vous tente d'aller la découvrir, Festival de jazz de Montréal, 4 juillet. Et sinon, juste avant, il y a le Festival de Trois-Rivières, le 29 juin. Autrement, je voulais qu'on discute, Dan, de Cardi B. Est-ce que tu la connais, cette rappeuse célèbre?
Oui, c'est une rappeuse. D'ailleurs, elle est très, 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 très bonne. Elle me semble être un peu tourmentée.
Elle est un petit peu tourmentée. C'est une ancienne danseuse nue qui maintenant fait de la musique. Elle a lancé une chanson il y a 2 ans qui s'appelle Bodak Yellow. Et grâce à cette chanson-là, son nom a circulé partout sur la planète. Elle a même gagné en janvier dernier le prix de l'album rap de l'année aux Grammy Awards, qui est donc les récompenses de l'industrie musicale américaine. C'est la première fois qu'une femme gagnait ce prix-là. Donc, c'est quand même pas rien, mais actuellement, ce qui se passe dans sa vie, c'est pas mal moins glorieux. C'est plutôt sur les tribunaux qu'elle va se produire que les scènes. Il y a des faits qui sont présumés, qui remontent évidemment contre elle le 29 août dernier. Elle s'est rendue dans une boîte de nuit un soir. Elle était avec un petit groupe de personnes et elle était persuadée qu'il y avait 2 femmes qui avaient eu une relation sexuelle avec son mari, qui s'appelle Offset, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Migos. Et donc, elle a demandé à son entourage de lancer du mobilier sur les 2 serveuses. Évidemment, elles ont été blessées. Et donc, maintenant, elle est devant les tribunaux. Documents de justice qui détaillent 14 chefs d'accusation. Elle a plaidé non coupable hier. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a beaucoup de fans, j'ai l'impression qu'ils vont être déçus de voir une carrière aussi grandiose peut-être flétrir un peu plus rapidement qu'on pensait, parce qu'elle pourrait donc faire 4 ans de prison si elle est déclarée coupable. Mais Dan, elle a dit que pour elle, c'était impossible qu'elle fasse de la prison. Pourquoi? Parce qu'elle a une fille. Donc, on va voir ça.
Elle n'est pas tout à fait sur la table. Moi, je vais te dire, le public en général ne peut pas se rendre compte, puis ils n'ont pas à se rendre compte, ce n'est pas leur job. Qu'est-ce que c'est que le succès? C'est plus complexe qu'on pense. Moi, j'ai des souvenirs personnels, ça fait au moins 15 ans maintenant. Mais par exemple, mes shows normaux, c'était correct. Mais par exemple, je finissais un gros show du refuge dans une période où j'étais célibataire.
Oui.
Puis là, ben, à la fin du show, les chums venaient chercher les chanteuses, puis les blondes venaient chercher les chanteurs, tout le monde repartait, tout le monde était content. Puis moi, je rentrais chez nous, j'arrivais tout seul, puis j'avais l'impression que personne n'était fier de moi. Ce qui était faux, tout le monde était content.
Mais
j'avais ça. Il y a cette difficulté-là de m'en passer dans un univers un peu fantasmagorique et hyper intense à rien, ce qui est la vie de tout le monde. Il faut accepter de vivre, t'es tout seul chez vous de temps en temps. C'est normal.
Mais la particularité, c'est d'être acclamé sur la scène, puis d'arriver chez eux, puis de sortir les poubelles.
Oui, Mais c'est quand même particulier, tu sais. Il y a des gens que je surprends des fois parce que je fais mon marché. Je dis, ben oui, c'est drôle, les chanteurs, on mange.
C'est ça.
Mais les gens nous imaginent pas dans des positions dans lesquelles ils ne nous voient pas. Mm-hmm. Et puis souvent, on est assez désarçonné dans ces positions-là. Nos vies personnelles sont absolument pas aussi belles que nos chansons qui ont marché puis qui ont trouvé écho comme ça. Puis c'est un apprentissage, le succès. Ça devient même un métier. Comment vivre avec ça? Comment accepter de rentrer chez toi après? Puis c'est correct, tu peux te calmer, tu vas avoir d'autres choses et puis tout ça. C'est un apprentissage. D'après moi, elle le fait mal en ce moment. Je l'ai fait mal moi aussi dans ma vie au début.
C'est le début de sa carrière quand même à Cardi B.
Oui, moi je vis bien là maintenant. J'ai 61 ans.
C'est
j'ai pas juste fait des bons coups.
Tu en as vu d'autres.
Oui, j'ai vu une coupe.
Tu en as vu une coupe d'autres.
Ouais, mais j'ai pas garoché de mobilier sur personne. Mais je fais mes niaiseries moi aussi.
Ben le mobilier c'est une bonne nouvelle pour toi puisque tu n'es pas allé en prison. Donc elle peut-être 4 ans. On va suivre ça bien évidemment. Il y a aussi une fille qui a énormément de succès et c'est partout sur la planète. C'est Céline Dion. Mm-hmm. Céline Dion depuis quelque temps, on dit beaucoup que ça va pas bien. Qu'elle perd trop de poids, qu'elle est rendue trop mince. Et hier, elle a fait le tour d'Internet avec des photos qu'elle a partagées sur Instagram où on la voit en train de pratiquer la raison pour laquelle elle a perdu autant de poids, c'est-à-dire faire de la danse. Dan, il faut que tu ailles voir ça. Elle est d'une flexibilité impressionnante.
Oui, elle a la jambe.
Tu l'as vu?
Ben moi, j'ai chanté avec. Puis quand on répétait, elle ne faisait pas de micro en pleine face. Là, elle me dépeignait. Là.
Ouais.
Dans mon cas, il faut que tu souffles un petit peu.
Mais elle dansait-tu?
Oui.
Arrête!
Complètement. Elle est plus que multitalentueuse. Maintenant, pour les critiques sur Céline, il y a quelqu'un qui a une commentatrice en anglais qui a bien résumé ça. Je m'excuse pour le terme.
Vas-y.
Mais she just ran out of fucks to give. Ça veut dire, bref, elle s'en colle.
Oui.
Imaginez le reste, là, mais c'est pas mal ça. Elle a
tant
le droit
mieux.
Maintenant, c'est elle le gérant, c'est elle le boss, elle fait ce qu'elle veut, elle pèse le poids qu'elle veut, elle s'amuse comme elle veut, elle sort avec qui elle veut, c'est pas de nos maudites affaires.
Moi, je trouve ça beau.
Ça nous regarde pas.
Mais je trouve ça beau de la voir s'épanouir comme ça. On dirait qu'on découvre une nouvelle Céline Dion.
Oui.
Je termine avec une petite mini...
Je la trouve encore mieux, moi.
Oui?
Je l'ai toujours aimée, puis je l'aime encore mieux maintenant. Mais pendant que tout le monde critique, moi, c'est le bout où je l'aime le plus.
Elle semble plus libre.
Oui.
Plus libre.
Ça
c'est beau à voir.
Bien.
Je suis d'accord avec toi. Je termine avec une petite nouvelle sur le film de Xavier Dolan, qui, je rappelle, est allé à Cannes avec le film Mathias et Maxime. Sauf qu'on avait comme oublié le précédent film qui s'appelle The Death and Life of John F. Donovan. Film qui a eu beaucoup de scandales autour de cette production-là. Ça fait 3 ans, donc, que le début du tournage a été commencé. Le film a été présenté en août 2018 au Festival de Toronto. C'est avec Keith Harrington, Natalie Portman, Susan Sarandon et dès que le film a été présenté, il a reçu des commentaires très mitigés. Cela dit, évidemment, les films Séville et Xavier Dolan voulaient sortir le film. Et donc, on a appris enfin aujourd'hui que ça va être disponible sur les écrans partout au Québec le 23 août prochain. Production quand même qui a coûté 37 millions de dollars.
Ouh!
Oui.
Mais ça, c'est du Xavier. Il fait parler. Il y a du monde qui parle, puis finalement, il remporte un énorme prix, puis finalement, ça marche tout le temps. Puis moi, je trouve que c'est un cinéaste de génie. Point.
Ben, il travaille fort, puis ça, on peut lui lever notre chapeau à cause de ça,
absolument.
Évidemment.
C'est un génie du cinéma pour moi. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Mal. On se retrouve demain.
On se retrouve demain pour une autre chronique. Puis après la pause, qu'est-ce que le breakdance, le skateboard, puis le surf ont en commun? Je vous dis au retour.